Alain Carcenti, bonjour.
Bonjour.
Dans un article pour la revue Hérodote, vous rappelez que la première cause de destruction de la forêt en Afrique centrale, ce n'est pas l'exploitation industrielle du bois, c'est d'abord l'agriculture et même la petite agriculture.
Contrairement à d'autres régions du monde où il y a de la grande agriculture industrielle, il y en a assez peu en Afrique centrale. Donc l'essentiel de la déforestation vient de la petite agriculture, qui est elle-même nourrie par les dynamiques démographiques d'accroissement des populations. Et également la fabrication de charbon de bois, qui est très importante puisque c'est une des premières sources d'énergie, notamment pour la cuisson des aliments des populations.
Et vous écrivez que c'est en 2010, et particulièrement en RDC, que la déforestation prend de l'ampleur dans la région.
Oui, jusqu'avant cette date, la RDC, qui a le premier massif forestier d'Afrique centrale, et avait une déforestation qui restait relativement modérée. Et en fait, avec l'accroissement démographique, l'attribution de concessions minières et autres, la déforestation s'est mise à vraiment augmenter et on est à des pertes de plus d'un million d'hectares par an, ce qui fait que la RDC est aujourd'hui le deuxième pays en termes de déforestation après le Brésil.
Et dans cette déforestation en Afrique centrale, quel poids pèse l'exploitation industrielle du bois qui est souvent pointée du doigt par les ONG?
Alors elle pèse peu. Si vous prenez l'exemple du Gabon, c'est sans doute le pays qui a l'industrie du bois la plus développée, avec un pays qui est couvert de concessions, mais c'est un pays qui n'a pratiquement pas de déforestation. Lorsqu'il n'y a pas derrière une dynamique agricole pour aller s'installer dans des forêts qui ont été ouvertes par l'exploitation, eh bien la forêt simplement va se régénérer, comme c'est le cas au Gabon.
Donc si cette pression de l'agriculture sur la forêt est un enjeu majeur, comment y faire face alors pour protéger la forêt tout en conciliant le besoin d'alimenter une population de plus en plus nombreuse?
Il va falloir absolument donner aux paysans et aux cultivateurs, les aider à se former à de nouvelles pratiques, leur apporter du capital, leur apporter des engrais, leur apporter différents moyens d'intensifier de manière écologique, c'est-à-dire sans détruire les sols avec des produits chimiques et des pesticides, donc une intensification écologique de l'agriculture. Il va falloir également trouver des solutions pour résoudre le problème des prélèvements de bois, du charbon de bois qui détruit les forêts, donc probablement avec de l'électricité, avec peut-être du gaz naturel. Il va donc également falloir travailler sur les questions notamment du foncier, de clarifier les droits fonciers pour éviter que la déforestation soit liée aussi au fait que les gens créent des droits de propriété en coupant la forêt et en s'appropriant des espaces qui sont ainsi déboisés.
Et alors sur ces questions-là, quelles sont les différentes stratégies mises en œuvre par les pays de la région ?
L'un des problèmes, c'est que la logique d'amélioration de la production agricole suivie par les pays d'Afrique centrale est beaucoup trop orientée, à mon avis, vers la grande agriculture industrielle, c'est-à-dire chercher à attirer des investisseurs qui vont faire du palmier à huile ou qui vont faire des grandes productions tournées vers l'exportation. Or, la cible, ce sont vraiment les petits paysans, ceux qui ont un demi-hectare, un hectare, et qui, véritablement, sont aujourd'hui dans des situations où ils n'ont pas d'autre choix que de déboiser pour nourrir leur famille et assurer leur avenir.
Est-ce que tous ces programmes qui ont été mis en œuvre de gestion communautaire d'espaces forestiers, est-ce que ça fonctionne ?
Ça fonctionne mal parce que on considère qu'un village est une communauté. Souvent, ce n'est pas ça. Souvent, dans un village, il y a plusieurs communautés, de nombreuses familles qui ne s'entendent pas forcément. Le deuxième problème, c'est que on doit, pour avoir des forêts communautaires, passer par un ensemble de procédures. Ça coûte très cher d'avoir des forêts communautaires. Et en fait, très très vite, ce sont ce qu'on appelle des élites, c'est-à-dire des gens qui possèdent de l'argent, des relations politiques, qui vont être à l'initiative de la création de forêts communautaires pour s'enrichir en augmentant les coupes de bois, en vendant des terres, et non pas finalement en actant, en gérant au profit de la communauté.
Au niveau mondial, il y a ce mécanisme RED qui existe maintenant depuis 15 ans pour inciter les grands pays forestiers à éviter la déforestation et la dégradation. Mais vous l'avez dit, cette déforestation, elle continue en Afrique centrale. Donc c'est quoi les limites de ce mécanisme ?
Bien, les limites de ces mécanismes, d'abord, c'est sa complexité qui, au fond, consomme énormément d'expertise. Donc, de ce point de vue, c'est pas un mécanisme qui est véritablement très performant. Le deuxième problème, c'est que c'est un mécanisme qui ne s'intéresse pas à la qualité et la cohérence des politiques publiques qui sont mises en œuvre. Le mécanisme, effectivement, est censé rémunérer uniquement les pays qui ont une baisse de la déforestation, par exemple, mais sans s'interroger sur d'où provient cette baisse de la déforestation. Par exemple, d'une baisse des prix agricoles qui fait qu'il y a moins d'incitation à déforester. Or, le meilleur moyen, à mon avis, la manière la plus intelligente de travailler, serait d'une part d'avoir un volet d'investissement très important, c'est-à-dire qu'il va falloir effectivement qu'il y ait énormément d'argent pour transformer les pratiques agricoles, sécuriser le foncier, trouver des sources alternatives d'énergie par exemple, mais également il faudra qu'il y ait une dimension peut-être de récompense, de rémunération des pays en fonction de la qualité des politiques et la cohérence des politiques publiques qui ont des impacts sur les forêts.
Et pour cela, est-ce que vous croyez à une solution multilatérale dans le cadre de conférences comme celle qui se prépare, la COP26?
Ben non, justement, c'est-à-dire que je crois qu'en multilatéral, on est obligé de travailler sur des consensus, on a beaucoup de mal à trouver des instruments qui rémunèrent pour la qualité des politiques publiques. Donc je pense beaucoup plus à des coalitions de bailleurs de fonds, des coalitions de partenaires. En Afrique centrale, finalement, nous avons l'initiative pour les forêts d'Afrique centrale, qu'on appelle CAFI. Et c'est bien la logique de cette coalition, qui est menée par la Norvège, qui est un des principaux pays donateurs pour la forêt à l'échelle internationale. Mais d'autres pays, la France, l'Union européenne, font partie effectivement de cette coalition, et d'autres sont en train de la rejoindre. L'idée, c'est de pouvoir à la fois investir dans des programmes qui sont des programmes agricoles, des programmes y compris de maîtrise de la démographie, des programmes d'aménagement du territoire, de sécurisation du foncier d'une part, et qui commencent à faire des paiements aux résultats, c'est-à-dire de payer pour les politiques publiques qui sont menées.
À la fin de votre article dans la revue Hérodote, vous faites part de vos inquiétudes, je reviens à un niveau plus local, concernant l'avenir notamment des politiques publiques pour la forêt en RDC, en Centrafrique et au Cameroun particulièrement.
Bah, ce sont effectivement des pays qui ont des problèmes politiques, qui ont des problèmes de gouvernance qui sont bien connus, qui sont aussi des pays dans lesquels, enfin notamment pour la RDC, pour le Cameroun, il y a une assez forte augmentation de la population et de la démographie, sans intensification de l'agriculture, donc ça va poser un certain nombre de problèmes. Et la grande difficulté, c'est que les pays sont confrontés, notamment je pense à la RDC, à des agendas politiques et économiques très très compliqués, et dans lesquels, effectivement, la question des forêts, finalement, n'est pas une question prioritaire. Donc il y a souvent la recherche, de bénéfices éventuellement à court terme, avec notamment les mines, ou alors justement le palmier à huile avec de grandes concessions de palmier à huile, par exemple. Et ça, ce sont des politiques qui sont contradictoires. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, d'un côté, avoir un discours de protection des forêts, et de l'autre côté, finalement, d'une autre main, encourager toute une série d'activités qui, mal maîtrisées, sans plan d'aménagement du territoire, sans étude d'impact, effectivement, vont avoir automatiquement des conséquences en termes de déforestation et de dégradation des forêts.